Vous écoutez Indiscopie.
Épisode 7. Et oui, déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes, ou bonsoir si vous écoutez ce podcast dans le creux de votre plaid ou de votre lit. Bienvenue dans cet épisode qui nous emmène cette fois-ci en banlieue de Rennes. On va toquer à la porte du coworking de Damien Mayence. Il vient de sortir sa dernière production, Flippons, et je crois qu'il a très hâte de nous en parler. Des gestes barrières, les micros à 200 mètres, et on est bon là.
Parfait.
On est super bon, il n'y a même pas de bruit de manipulation, c'est dingue. Alors est-ce que je peux te demander de te présenter du coup?
Oui, donc je suis Damien Mayence et je suis programmeur jeux vidéo et pas mal d'autres choses, sites web, applications. Et j'avais un studio, Pixanet Studio, basé à Rennes, avec lequel j'ai fait des jeux avec un ami et maintenant je fais des jeux pour d'autres gens et pour moi.
Qu'est-ce que c'est Flippons?
Flippons, c'est un match 3, un peu comme tous ces jeux mobiles qu'on connaît bien, où on aligne 3 blocs de la même couleur sur une grille. La particularité, c'est que j'ai voulu faire un match 3 qui prend pas les gens pour des machines à sous. Donc, c'est un jeu voilà, où on peut gagner à tous les coups si on comprend la logique du niveau. C'est un jeu coloré, mignon pour toute la famille. Et un jeu donc, qui la difficulté est croissante. Il faut apprendre à jouer, il faut apprendre le jeu, c'est pas que du hasard. Car dans un Candy Crush, les niveaux ne sont pas toujours finissables. Il y a des chouettes probabilités qui font que parfois on perd exprès pour devoir payer des vies ou relancer la partie.
Voilà, donc là,
c'est ce que je n'aime pas.
On paye une fois et on a un jeu complet.
Exactement, pas de pub, rien de mauvais, on va dire, de mécanique un petit peu que je trouve un peu détestable dans les jeux. Je suis un peu à l'ancienne sur ce genre de choses.
Pourquoi t'as voulu faire un match 3 ?
En fait, des amis m'ont montré Panel de Pon, donc, qui est un jeu Super NES des années 90. Qui est en fait sur ce concept de match 3 et où la grille monte en permanence. Si elle touche le plafond, on a perdu et on ne peut déplacer les blocs que de gauche à droite. Mais on peut les déplacer dans le vide et du coup ils tombent. Donc la mécanique originale n'est pas de moi, mais j'aimais beaucoup le principe. C'est un jeu qui est très chouette, encore très joué. Et je me suis dit, y a une opportunité d'en faire une version moderne, sachant que je n'ai pas fait un bête copier-coller. Il y a des idées que j'apporte aussi dans Flippons, qui ne sont pas dans l'original. Mais en fait, c'est un peu comme Star Eden qui était un shoot 'em up. Un joueur très ancien qu'on a remis un peu au bout du jour, je trouvais ça sympa de recommencer l'idée de prendre un vieux concept et puis essayer d'en faire quelque chose de moderne sur téléphone portable, Nintendo Switch.
Qu'est-ce qu'il y a justement d'original dans Flippons ? Il y a un petit mode histoire déjà, on suit une petite fille.
Petite fille, je ne sais pas.
Moi je crois que c'est une petite fille, mais je me trompe peut-être.
Moi je demande, j'ai pas demandé l'âge, donc c'est Aurélien Regard qui a fait les graphismes et les dialogues et qui a imaginé l'univers.
C'est parce qu'elle est trop mignonne.
C'est vrai, avec son chien et tout. Enfin, ils sont tous trop mignons, même les ennemis méchants sont mignons globalement.
Oui, ils sont tout ronds, tout colorés.
Voilà, c'est chouette. Merci Aurélien pour super travail. Donc il y a un mode histoire qui est simple, mais ça raconte un petit truc. Ça permet de présenter différents personnages qui vont introduire différents modes de jeu. C'est là où Flippons se démarque du jeu original qui avait surtout des jeux à score, en fait, des niveaux à score, et il avait des puzzles, mais qui étaient sur un principe où il fallait faire exactement les bons mouvements pour gagner. Dans Flippons, c'est plus libre, là, il y a différents objectifs dans les niveaux, faire des points, tenir longtemps, résoudre une grille avec laquelle on a pas mal de liberté, en fait, sur la manière dont on peut la résoudre. Et il y a aussi des combats, chacun a son. Il n'y a pas de violence, on aligne des blocs pour envoyer des déchets, des blocs gris à l'autre. Différents modes de jeu qui n'y avait pas forcément dans l'original.
Petit message écolo.
Bah, pas trop, hein. On est là, on est des mineurs de l'espace et qui viennent piller des blocs sur une planète lointaine. Je suis pas sûr que.
Le message n'est pas très écologique. Non. C'est pas très très bien.
Pas sûr.
Bon, et tu vis ski avec Flippon, la mère, la grand-mère. Le...
Et c'est une bonne question. Je crois que j'ai mal répondu. Je visais, je pensais faire plus familial ou plus accessible que Star Hélène, qui était vraiment hardcore. Et à mon avis, je vise encore trop haut en termes de d'accessibilité. Donc, voilà, j'aurais aimé toucher un public plus large. Après, pour moi, c'est aussi un. Enfin, je suis joueur et depuis longtemps, donc un peu aguerri. Enfin, c'est un biais, hein, forcément. Mais je voulais aussi que le jeu puisse me plaire, donc qu'il y ait à haut niveau ou qu'à la fin du jeu, il y ait quand même un petit peu de défis qui sont intéressants. Mais je voulais un début peut-être plus accessible que ce qu'il est actuellement.
Combien de temps ça t'a pris à développer en totalité Flippon, du coup ?
Alors, c'est un projet qui s'est étalé de 2014 à maintenant. Parce qu'à la base, c'était juste, je voulais faire un jeu pour ma copine, en fait. Parce qu'elle jouait à Candy Crush, j'en avais marre, ça m'aurait pilé. Je me dis, je vais t'en faire un qui sera pas injuste et qui sera... voilà. Puis en plus, ce sera à moi. Et ça s'est étalé. Et c'est juste, on va dire, en 2018-2019, où on s'est dit... Non, c'est 2019-2020, du coup. Un peu perturbé par les dates. On s'est dit, là, on va faire 6 mois pour finir vraiment le jeu, mais donc c'était mon projet du soir, un peu.
D'accord.
Le projet doudou.
C'est vrai.
Ouais.
C'est trop bien.
Pour changer de Star Eden ou autre. Tout cumulé, je pense qu'il y a un peu moins d'un an de travail. Si on met tout bout à bout. Hein.
Non, ouais, t'as bossé avec Aurélien Regard, donc pour le graphisme. T'as bossé avec combien d'autres personnes ?
Il y a donc Plugin Digital en distribution qui m'a mis en contact avec Aurélien pour les graphismes. J'ai travaillé avec Johan Bazoge qui est à Ivory Tower pour toute la partie interface. Il y a Xander Noriega, un argentin, musicien argentin, qui avait travaillé avec moi sur Star Eden déjà. Donc on était. Bonjour.
Bonjour.
C'est la poste.
Je sais pas, je suis pas dans la lettre.
Je peux signer où ?
Alors, ici et sur la planche. Bonne journée à vous.
Merci d'être monté.
Il n'y a pas de soucis, hein. Oui, donc, je pensais que c'était ton portable, en fait.
Ah non. Tu bossais avec tout un tas de gens, dont des gens avec qui tu as déjà travaillé sur Star Eden, du coup.
Ouais, en général, quand on a confiance dans des gens, on essaie de les reprendre, on aime bien. Johan, j'avais travaillé avec lui sur Nightcall. Ça avait bien fonctionné, donc c'est dit on pouvait recommencer. J'ai travaillé avec Swan Ménage pour le son, sound design. Swan avec qui j'avais travaillé sur Letty's The Ring Discoverer. C'est pareil, quelqu'un que... Enfin, on s'était bien entendu, ça avait bien marché, on recommence. Et Benjamin Magnan, qui était mon stagiaire du coup, il était mon élève avant à Laval 3DI. Et je l'ai pris en stage. C'est lui qui a fait la plupart des niveaux de Flippon.
Ah.
Donc si c'est trop dur, écrivez-lui un message.
Du coup, ça me permet de dire que tu as travaillé sur énormément de jeux, finalement.
Énormément, je ne sais pas.
Oh, quand même.
Ouais, ça commence à s'accumuler.
Si on reprend depuis le début, ton parcours, en fait, c'est quoi ?
Alors, le tout début, donc je fais des études d'informatique assez classiques, de programmeur, voilà, DUT, licence, master. Et dès le DUT, mais surtout en master, en fait, je fais un premier jeu tout seul, où vraiment j'apprends par moi-même à faire du jeu vidéo. Il y avait toute une communauté à l'époque, ça s'appelait Xena, quelque chose que Microsoft avait mis en place pour faire des jeux. Et j'y ai rencontré les gens de Swing Swing Submarine, par exemple, ou de Flying Hawk. Voilà, c'était, je sais pas, 2008 peut-être. Et on avait déjà un peu cette communauté autour de cette technologie. Et j'ai fait un petit shoot'em up pour changer. j'avais un ami qui me faisait les dessins sur papier, on les scannait, puis après on les mettait dans le jeu. C'était tout mignon. Le jeu est nul. Il s'appelle The Great Paper Adventure. Et il est mieux en image qu'en jeu. Mais c'était le début, ça m'a quand même pris 3 ans de le finir en parallèle des études. Et je suis allé au bout, donc je l'ai vendu sur le Xbox Live Indie Game à l'époque, sur PC aussi. Donc c'était vraiment, enfin, on a eu un article dans Canard PC. Voilà, on a fait les démarches de la création à la distribution, commercialisation.
Comme des pros. Hein.
Ouais, comme des pros. Bon, comme des amateurs, mais qui veulent jouer aux pros. Et c'était un peu le, voilà, je me suis dit, c'est sympa de faire du jeu vidéo. Après les études, je voulais créer une, enfin, travailler avec un ami, Mathieu Auger, et on a créé une société, du coup, Pixenet Studio. On voulait faire une app de cuisine, ce qu'on n'a pas du tout fait, pour des raisons d'études de marché et beaucoup de choses. Et après, on s'est un peu perdu, et on a fini par refaire un shoot 'em up pour le festival du Stunfest à Rennes, festival de jeux. Ce jeu était plutôt sympa et on s'est dit bah, on va changer les graphismes et on va en faire un jeu complet.
Donc Stereden.
Ce qui a donné Stereden 18 mois plus tard et non pas 3 mois plus tard comme prévu.
C'est toujours comme ça. Hein.
Oui, c'est assez classique. On en a un peu souffert à la fin, mais on est très content de Stereden qui nous a permis de bien.
Ça vous a un peu révélé en fait, Stereden.
Oui, complètement. Ouais. Ça a permis aussi d'accéder à tout ce qui était console, de connaître plein de gens. Oui, ça ouvre toutes les portes un peu après.
Il y a une particularité dans Stereden et dans Flippon.
Oui.
Les jeux sont en breton.
Tout à fait. D'ailleurs, Stereden veut dire étoile en breton.
Et Flippon ?
Non, Flippon. je voulais garder le pont de Panel de Pon, Panel de Pont. Voilà. Et Flip, le côté, on passe, enfin, on échange les blocs. Mais non, Flippon. Enfin, je crois pas. Hein. Désolé si je me trompe. Donc, les deux jeux ont une traduction bretonne. Sachant que Stereden, il y a très peu de texte, donc c'était facile, mais Flippon, il y avait quand même un mode histoire avec des dialogues un peu plus conséquents, enfin plus de mots.
Oui, donc vous avez fait appel donc, à un traducteur.
C'est ça, donc c'est Gwen Meunier qui a une association qui fait justement traduction de, bah, de livres, jeux vidéo, de plein de choses. Ils font pas mal de traductions justement en breton, et toujours très sympathique et toujours très motivé pour bosser avec nous, très réactif. Donc il était partant sur Stereden et puis il était repartant sur Flippon. Et nous, c'est... Enfin, surtout moi, d'ailleurs, c'était mon initiative. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, en fait, ne parlant pas breton, mais envie de faire vivre cette culture, de faire vivre cette langue un peu, et de partager le patrimoine culturel de la région. Je trouve ça important. C'est, voilà, c'est un petit peu engagé. Des fois, d'être écolo dans le jeu, on est engagé sur la langue.
Donc, après Stereden, vous vous êtes splitté avec Mathieu.
Il avait envie de faire vraiment tout autre chose que du jeu vidéo. Et moi, bah, j'avais l'opportunité, donc j'avais commencé... à travailler sur Nightcall, un jeu narratif non linéaire où on incarne un chauffeur de taxi dans Paris, on suit des histoires et on cherche un tueur en série. Donc une belle équipe et une belle production, très content de travailler dessus. Et du coup j'ai continué après tout seul en fait, avec notamment sur Nightcall pour le finir. J'ai pu faire des petits projets comme To Doom. Qui permet de, c'est l'idée de prendre Doom, qui est déjà un vieux jeu, mais de l'imaginer sur Super NES en 2D comme un jeu de plateforme un petit peu, avec quand même l'idée, on a été pareil au bout, de contacter les ayants droit de Doom pour essayer de faire un vrai jeu, on sait jamais. Bon, ça a donné un chouette petit prototype qui n'ira jamais plus loin, mais
t'avais pas envie toi de faire un Metal Slug?
Si, moi c'est mon rêve un peu, c'est de faire un Metal Slug. C'est pareil, question de licence, c'est compliqué. Du coup, on s'était dit peut-être que le type de jeu Metal Slug sur l'univers de Doom serait chouette. Et je pense que c'est chouette, mais ils veulent pas. Bon.
Pour l'instant. On va croiser les doigts.
En tout cas, c'est un prototype qui plaît beaucoup. On a toujours beaucoup de joueurs. Je crois qu'on est à 50 000 joueurs en un an. Vu qu'il est gratuit, il y a deux petits niveaux. Et j'ai fait travailler des étudiants de Laval 3DI à nouveau dessus. Et du coup, c'était vraiment chouette comme expérience. À la fois, on a fait un jeu qui est sympa, qui plaît. Et en plus, on a travaillé avec des étudiants... qui était bien motivé.
Donc oui, tu as été enseignant donc à Laval 3DI, qui est en gros la branche jeux vidéo de l'Université catholique de l'Ouest à Laval.
Oui, donc Laval 3DI, qui cherchait à un moment un professeur, c'était il y a 3-4 ans, 2015-2016, je crois. Juste après Sterelen, en fait. Ce qui tombait bien, on n'avait pas forcément beaucoup d'activités. Et moi, je m'étais toujours dit, bah, ça peut être sympa d'enseigner, d'essayer. C'est une école de jeux vidéo qui a plutôt un accent sur la VR et le graphisme. Et donc modélisation 3D, animation et aussi on va dire graphisme plus traditionnel. Donc pas forcément en lien avec la programmation, mais justement, ils avaient besoin un peu de, au moins d'initier les étudiants à la programmation, avoir les bases et puis savoir un petit peu se débrouiller sur un moteur de jeu. Donc c'est ça que je suis allé faire pendant 3 ans avec ces étudiants. Et bah, y a des étudiants avec qui j'ai toujours contact, qui travaillent toujours. Enfin, c'était vraiment une super expérience, super école. Toujours en très bon contact aussi avec l'équipe enseignante là-bas.
Ouais, ça t'a plu en fait de transmettre
Complètement. C'était bon, bah il y a des jours où c'est pas facile. Et ce qui est pas facile, c'est de faire deux fois le même cours dans la même journée, deux fois trois heures de cours. Bon, c'est un peu dur de se répéter, mais c'est vrai que plus j'ai testé des choses comme Pico 8, qui est une fausse console, mais dans laquelle on peut programmer. C'est très limité. Il y a 16 couleurs, il y a très peu de caractères à l'écran. C'est, enfin, ça paraît très obscur et très moche. Et en fait, très vite, on fait bouger un pixel. Et tout de suite, les étudiants, ça y est, ça pétille dans leurs yeux. Ils disent, ah, on peut faire un Snake. Ah, on peut faire un Pac-Man. Tiens, je vais changer l'image. Et en fait, ça prenait vie très vite, progressivement. Ils comprenaient tout l'intérêt de la machine, de la programmation. Ça, c'était chouette.
Oh, c'est cool. Mmh. Le Pico 8, moi, ça me fait penser à Céleste. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un de tes étudiants par exemple, qui veut se lancer là-dedans, faire des jeux
Ce que disent, je pense, à peu près tout le monde, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir sortir d'une école ou de finir l'école en fait, pour faire des jeux. Il y a des choses comme Construct, des moteurs de jeux comme Construct, Game Maker ou même Pico 8, qui sont téléchargeables ou qui coûtent 15 € la licence à vie et qui permettent de faire des jeux professionnels. Hein. Le moteur importe peu, c'est pas parce qu'on fait pas du Unity ou du Unreal Engine qu'on fait pas un jeu. Et donc il faut se lancer en fait. S'ils ont une idée, voilà, faut prendre papier, crayon et souris et clavier et on y va. Ça s'apprend. Les écoles donnent surtout un réseau. Ça apporte un réseau et ça apporte l'occasion d'expérimenter des choses. Mais en sortie d'école, ça apporte pas forcément facilement un travail, peu importe la filière, game design ou art ou autre. Ce qui va compter dans ce milieu, c'est l'expérience. C'est je suis capable, enfin, montrer qu'on a fait un jeu complet et qu'il est disponible sur Internet, ça vaut toutes les études, je pense.
D'ailleurs, je viens de repenser, tu as créé un jeu auquel j'ai joué, qui s'appelle Monique, passion hôtesse de caisse.
Ah, bah, on ne peut pas éviter celui-là. Hein.
Mais non, mais parce que moi, ça me rappelle mes années de fac où j'étais un peu Monique, j'étais Marion hôtesse de caisse. Pourquoi?
Oh, voilà.
Monique, passion hôtesse de caisse.
Alors, ça part du concours Canard PC de faire le pire jeu du monde, ou au moins le pire jeu de l'année, on va dire. Donc je sais plus le nom du concours, mais enfin voilà, c'était vraiment l'idée de faire un jeu, pardonnez-moi l'expression, mais de merde, avec le but de gagner, voilà. Donc il se trouve qu'on a gagné avec Monique.
Ah bon?
Oui, on a eu les troncs d'or.
Oh, merveilleux.
Mais puis voilà, c'était l'occasion de travailler avec des copains, donc avec qui j'avais fait The Great Paper Adventure, premier jeu, et là on s'était dit, bah c'était voilà plus rigolo, faisons le pire truc possible. Il y a donc Monique, on joue une caissière, mais c'est vraiment affreux. Il y a des articles qui passent, et des clients qui passent, mais tout est horrible, tout est mal découpé, tout est mal modélisé, il y a rien qui fonctionne correctement. Mais ce qui est beau, c'est que le fait que ça marche pas correctement, c'est voulu. C'est que le menu, il est lent, on comprend pas trop pourquoi ça marche pas bien.
C'est ça.
Parce qu'on a mis du délai dans les touches, exprès.
Non.
Sinon, ça marchait très bien. Mais du coup, nous, on s'est dit, on va ajouter un délai, on va ajouter un son horrible. Donc c'est un ami, Gabriel Corbel, qui avait fait les sons dans sa baignoire, dans son appart étudiant, faire des bips dans la baignoire. Ça donne un résultat, je sais pas, ça se tient au final.
Mais ça, oui, le tout nul donne un ensemble très cohérent.
C'est ça. Puis il y a un propos voilà, un peu anticapitaliste, un peu le méchant patron qui est jamais content, qui gagne beaucoup d'argent et pas nous, et de toute façon on se fait virer à la fin quand même.
Oui, de toute façon, il n'y a pas de bonne fin.
Non, Monique, c'est juste quand on arrête le jeu que c'est la seule bonne fin.
Non, mais moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire.
Et c'est un succès parce que Squeezie a fait une vidéo, il a 2 millions de vues dessus.
Non.
Et oui, et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur un jeu pourri. Alors bon,
C'était un peu une semaine.
Et du coup, tout le monde s'est mis à télécharger le jeu parce que c'était trop, trop marrant. Voilà, ils étaient tous à fond à faire des vidéos là-dessus. Sauf que moi, mon pauvre serveur, bah, il n'était pas prévu pour ça. Donc ça m'a coûté de l'argent,
non
de harmonique.
Squeezie, tu as fait perdre de l'argent.
Voilà, et je l'ai contacté, il m'a pas. Ça l'a...
Non.
Il a jamais fait une vidéo de Staden, par exemple. Ça l'a pas.
Ah ouais, ça l'a pas chauffé,
non.
Quoi. Squeezie, tu es dans cette interview.
Et ça parle de Monique.
Et ça parle de Monique.
Mais ouais. Je crois qu'il avait vraiment rigolé en plus. C'est un drôle de phénomène et quand j'en parle à des étudiantes, c'est des fois, enfin un peu moins maintenant, mais ils connaissaient quoi. Et c'est un peu surpris de dire, moi. Mon prof a fait Monique. Et ouais, bon.
Et justement, ouais. Parlons de com. C'est facile de parler de son jeu, je sais pas, dans la presse, via les influenceurs, comme on dit.
Alors j'ai un peu lâché l'affaire, mais c'est vrai que bon, pour parler autant de Staden, c'était il y a 5 ans déjà,
oui.
Une éternité en termes de réseaux sociaux.
Ça ne rajeunit pas.
Non, pas trop. À l'époque, le grand truc c'était YouTube, c'était juste avant la vague Twitch, on va dire. Et on a vendu Staden uniquement parce qu'on a fait, on a donné plein de clés à des YouTubeurs qui ont fait des super vidéos. Ça a été. On a contacté la presse aussi, mais je pense que toute la machine médiatique, c'était grâce au tout l'emballement médiatique, c'était grâce à ça, quoi. Grâce à YouTube.
Ouais, comment t'expliques que la presse soit moins, soit moins moteur finalement que les influenceurs? Elle s'intéresse déjà aux indépendants français.
C'est pas facile. Même des gens qui on peut être assez proches, comme Gamekult. Enfin, je sais pas, ils ont pas fait de tests ou de news sur Flippon, ou ils font pas systématiquement. Pourtant, ils nous connaissent. Enfin, ils savent. Ils ont à peu près répertorié les studios français, mais ils vont pas relayer systématiquement nos nouvelles déjà en local. Parce que je pense que c'est pas ce que leur public préfère non plus. Hein. Ça doit pas non plus faire tout ce qui est jeuxvideo.com et tout. C'est pareil. C'est assez. Difficile d'accès finalement quand on est petit studio.
Toi, t'aurais pu faire Cyberpunk aussi.
Ouais, bah. C'est peut-être ça que j'essaye de faire en secret.
C'était ton Monique au test de caisse.
Voilà.
Pardon.
Excuse-moi. En plus, il y a eu une suite à Monique, mais.
Hein?
Ouais. Un nom officiel. Enfin, on a fait World of Papras après. C'est un MMORPG à Pôle emploi.
C'est pas sorti ça?
Si, si.
Non!
C'est nul et on peut pas. Enfin, ça marche très mal. Là, pour le coup, c'est vraiment buggé, c'est pas des bugs drôles.
Ah non, mais il faut reprendre ça tout de suite.
Ah non, c'est bon.
Je peux témoigner pour Pôle emploi.
Là, on joue. Bah, c'est le coup des 12 travaux d'Astérix où on passe d'administration. Donc, on a un formulaire avec des tâches à faire. Et à chaque fois qu'on va essayer de faire une tâche, on nous dit d'aller dans un autre bureau et ça dure 4 heures. Et à chaque fois, il y a un truc horrible à faire à l'écran, un formulaire mais incompréhensible, ou voilà, un numéro de téléphone à saisir mais avec une interface qui n'est pas prévue pour. Et on pouvait jouer à plusieurs et tout, faire la course.
C'est excellent. D'ailleurs, j'ai pas posé la question, mode multijoueur sur Flippon ?
En local. C'est la grande question des joueurs, le en ligne. Le problème, c'est que ça coûte très cher à faire. Il faut payer les serveurs. Et si derrière, il n'y a que 5 joueurs qui jouent pendant un mois, bah,
ça sert à rien.
Ouais, ça va être 3-4 mois de travail au minimum. Le jeu est vaguement pensé pour, mais ce serait quand même assez difficile. Donc j'ai pas très envie, à moins qu'il y ait un... Bon, on sait jamais, la sortie mobile, peut-être qu'elle va me faire changer d'avis ou me donner les moyens de faire la sortie, la version en ligne. Mais bon, concrètement, je pense qu'à mon niveau, tout seul en programmation et avec un jeu qui, a priori, ne va pas aller plus loin que rembourser son coût, je pense qu'il faut être raisonnable aussi. Quoi.
Ça coûte combien un jeu comme Flippon ?
Flippon, on doit être autour de, tout compris, 35-40 000 euros.
Ça va ?
Ça va. Enfin... Staden, on avait compté 100 000 la version de base, et on avait remis 50 000 pour l'extension derrière. Et c'est des tout petits budgets. Voilà. Dans ce bureau, on a 2 projets à plus d'un million d'euros, tout compris.
Ah oui, parce qu'ici, dans les locaux où on fait l'interview, il y a 2 autres...
Il y a plusieurs
structures,
studios.
Voilà.
Voilà.
Il y a d'autres
studios. Je ne savais pas qui fait quoi, mais voilà. Enfin, on va dire qu'un jeu vidéo, ça coûte vite 1 million d'euros. J'ai tout compris, développement, graphisme, la sortie, le marketing, publicité.
Les salaires.
Les salaires, ouais. Ouais, c'est le coût numéro 1.
Ah, c'est le premier.
Ouais. Si on veut payer correctement les gens, ce qui n'est pas souvent le cas dans le jeu vidéo, ça coûte très cher.
C'est bien à préciser ça aussi. Étudiants, écoutez-nous. Hein.
Oui, il y a le baromètre, hein, c'est pas le guide des métiers du SNJV qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a des grilles de salaire dedans. Bon, c'est à Paris. Hein.
Ah, d'accord. Okay.
C'est quand on en a de la chance, souvent. Faut voir un peu moins. Quoi.
Là, pour le coup, on fait l'interview avec des masques sur la bouche et à 1 mètre de distance à peu près. Heureusement que j'ai de très longs câbles de salaire. La crise du Covid, elle a empiété un peu sur ton travail ?
Alors, empiéter sur mon travail, mais je pense qu'on est le secteur qui peut vraiment pas se plaindre, puisque les gens chez eux ont beaucoup joué. Clairement, ils avaient le temps, l'envie et le besoin de jouer, de se divertir. Et du coup, quelque part, on s'est senti un peu utile aussi de proposer du divertissement aux gens à ce moment-là. Mais moi, personnellement, avec des enfants en bas âge, donc je n'ai pas pu travailler beaucoup, au moins pendant le premier confinement, jusqu'à la réouverture des écoles. Ouais, ça a mis quand même des projets un peu en retard où on n'a pas pu bosser autant qu'on voulait, mais voilà, j'ai pas non plus trop me plaindre sur le secteur n'est pas touché, au contraire, quoi. On s'en sort très bien de ce point de vue-là.
Vous avez participé un peu à égayer
J'espère.
Le quotidien des gens.
Après, ça dépend des jeux, quoi. Je sais pas si Nightcall égaye le cœur des gens. En tout cas, il leur change d'univers.
Oui, ça, c'est certain. Ça s'est passé comment, la collaboration avec... sur Nightcall?
Alors, pour Nightcall, donc on va dire le chef du projet, Laurent Victorino, on s'était rencontrés il y a quelques années. On avait bien accroché. Et puis là, on jouait pas mal ensemble le midi, Overwatch, tout ça. Et à un moment, il avait besoin de renfort en programmation sur le jeu. Donc, je suis arrivé pour essayer de les dépatouiller un peu. Alors, on m'appelle le pompier un peu. C'est les projets, parce que voilà, sur Nightcall, fallait éteindre les feux, fallait réparer un peu le jeu. Pour aider à le sortir. Et après, donc j'ai travaillé chez Lonestone, des Nantais, sur City Invader. Et pareil, j'ai fait un peu le pompier pour les sortir. Voilà, remettre le jeu sur les rails pour qu'il puisse être fini.
On t'appelle quand c'est la catastrophe.
Ouais, un peu, ouais. Enfin, en tout cas, ces deux fois-là, c'était ça.
Vite, Damien Mayence, vite.
Ouais, drôle de sensation d'arriver au milieu du feu. Tout qui part en vrille.
Tant que c'est toi qui as le casque de pompier, ça
ouais,
va.
Voilà.
Et puis Laurent Victorino, il a l'air d'être, comment dire...
C'est quelqu'un qui est extraordinaire. C'est vraiment génial de bosser avec lui, un vrai plaisir humainement, et il est, non seulement il a des convictions, mais en plus il les met en pratique, quoi. Donc c'est génial, voilà. Merci Laurent de me laisser travailler avec toi.
Oui, ça te botterait toi de travailler dans un gros studio finalement?
Moi, je pense pas être capable. Ça fait du coup 7 ans que je suis à mon compte, et ce que j'aime particulièrement, c'est être preneur de décision, ou d'avoir en tout cas la responsabilité, la capacité de pouvoir agir quand il y a un souci. J'ai peur, dans un gros studio, me sentir juste un élément parmi d'autres, ça risque de pas marcher. Après, peut-être que je pourrais avoir des responsabilités aussi. Par contre, travailler en équipe dans le même bureau, je pense que ça pourrait être sympa un jour.
Avoir une petite équipe, en fait.
Ouais. Oui, je pense que 4-5 personnes, c'est bien, c'est suffisant.
Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont particulièrement marqué dans ta jeunesse?
J'ai même une liste, tu sais.
Sérieux? Non. Il y a un tableau Excel?
Presque.
Non.
Alors, c'est sur mon site, en plus.
Alors, je connaissais les gens qui faisaient des tableaux Excel pour leur RTT, pour leur congé.
Non, mais il y en a plein, en tout cas, autour de moi, qui font des tableaux Excel des jeux auxquels ils jouent. Et ils mettent des notes pour s'en rappeler, ou qui voient les films aussi, ils font ça.
Ah ouais?
Ouais, des gens un peu trop organisés. J'ai des souvenirs assez... Moi, Link's Awakening sur Game Boy, c'était mon premier contact avec un Zelda. La Game Boy, c'était ma première console à moi. Ça a été quand même un choc, mais je trouvais ça incroyable. Et même à y rejouer maintenant, je trouve que le jeu est incroyable.
Quel jeu qui t'a donné envie de faire des jeux?
Je ne sais pas, un peu tous, je crois. Un peu toute cette liste, justement, pour voir pour de quoi on parle. Moi, Dungeon Keeper 2 m'a occupé beaucoup, Crash Team Racing, Metal Slug, Perfect Dark, Warcraft 3... Fantasy 7 et 9.
C'est éclectique en plus. Ouais. Toi, tu joues à tout en fait.
À PC, console, ouais. Plutôt Nintendo quand même.
Ah, c'est pour ça la petite émotion de voir son jeu sur Switch.
Ouais. Ah, toujours un respect, une petite admiration sur les jeux Nintendo. Ils ont quand même, pour les jeux Nintendo, on va dire, vraiment faits par Nintendo, les Mario et compagnie, le sens du polish, le sens du jeu fini, agréable, de A à Z, il n'y a pas un bug et pas une frustration, quoi. Bon, je dis ça, j'ai joué à F-Zero. C'est le jeu le plus frustrant du monde, mais c'était quand même incroyable à jouer aussi.
Et du coup, tes enfants, ils jouent ou pas?
Ils commencent. Et justement, j'aime beaucoup Mario Kart Switch pour ça, qui a le truc, ça avance tout seul, ça évite les murs. Et il peut jouer comme avec un volant, et du coup, on peut faire des courses. Et ça, c'est chouette.
Oui, parce qu'on va dire, tes enfants, ils ont moins de 6 ans.
Oui, bah, moins de 5 encore.
Donc oui, forcément, il faut commencer petit quand même.
Mais ils jouent à Flippon, un petit peu.
C'est vrai ?
Ouais. Et Sago Mini, voilà, des jeux sur iPad très tactiles, très sympas, très colorés. Il y a surtout des interactions. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que manipuler un clavier, une souris ou une manette, c'est quand même vachement compliqué.
Et donc, après toutes ces belles aventures, qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite ?
Très bonne question. J'ai espoir de pouvoir travailler à plein temps avec le graphiste de Stereden, Simon Corollaire, qui, voilà, quand on travaille ensemble, ça marche plutôt bien. Lui aussi, il aimerait bien faire à peu près le même genre de jeu que moi. On a des idées de projets. Par contre, on n'a pas du tout les financements, donc
ouais, bon, c'est pas évident de trouver des sous.
Non, mais c'est plus facile maintenant qu'on a des jeux sortis, qu'on a les contacts et tout ça, que à l'époque de Stereden où on était totalement débutants. En tout cas, ça fait moins peur, mais bon, il faudrait faire des dossiers et tout. Il faudrait qu'on s'y mette.
Ah, vous n'êtes pas très papier.
Non, pas trop. Mais c'est une piste, ce serait de refaire des jeux un peu comme j'ai pu faire pour Flippon, mes propres jeux, quoi, du coup.
Ouais, c'est un peu un aboutissement.
Ouais,
c'est sortir ça. Ses propres jeux.
Complètement, ouais. Et surtout sur une console Nintendo, je trouve que en tant que joueur, avoir son jeu. Et Stereden, on a même des versions boîte, on a une édition limitée. Donc avoir sa boîte sur une console Nintendo, c'est. Voilà. Là, je me suis dit, on était bien. C'est un bel accomplissement.
Allez, pour le mot de la fin, qu'est-ce que je te souhaite ? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ?
Un beau projet secret en 2021, qu'on peut révéler en 2021, ce serait super.
Ah !
Et qu'il intéresse les gens.
Bon, eh bien, écoute, on va croiser les doigts, alors.
Merci.
Et puis, tu m'oublies pas. Hein.
Non.
Pour les révélations de DNA, NDA, tout ça, quoi.
Ça marche.
À bientôt.
Merci.
Merci beaucoup à Damien Mayence pour son accueil, pour son temps et pour avoir monté le thermostat du chauffage parce qu'il faisait pas très très chaud à Rennes ce jour-là. Vous pouvez bien sûr jouer à Flippon donc sur PC, sur Switch et sur téléphone portable. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Nous on se retrouve très bientôt avec Aline Bardou du studio Outerways. On causera jeux vidéo et engagement.
Une scopie.